présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Fait le matin à l'antenne, François est gêné. Elle le voit et lui dit: te dis pas ça pour toi, tu n'y es pour rien. Mais quel père tu as, puisque ce qu'elle fait. Hé hey, Ginette, elle dit au gosse, il faut que j'y aille. Elle les quitte. François finit son verre et dit: tu dois y aller, moi aussi. Adrien lui demande: on se reverra? François lui répond: oui, pourquoi pas. Et comment? quand on lui dit, comme cet après-midi. Et il le quitte. Une fois dehors, il se dépêche pour rentrer parce qu'il est déjà 22 heures. Arrivé chez lui, il retrouve ses parents à table, à boire. Son père lui demande, où étais-tu, toi ? François lui dit, j'étais avec un copain, j'étais au parc de la tête d'or et tout. Le père lui dit, on t'a cherché partout, il y a eu un problème. Ta mère a eu un problème. Elle fait à moitié saoule. Ouais ! Le père continue. Sur le marché, elle a été prise en train de faucher une montre. Une montre. La police voulait la coffrer pour ça. Alors, dès que j'ai su la chose, mes potes et moi, on a fait une manif près du commissariat. Ils ont eu peur et l'ont relâché. J'avais besoin de toi pour participer à la manif. Mais tu étais introuvable. Alors, hein? Ta pauvre mère au trou et toi tu t'amuses. Tu rigoles. Tu te fous pas mal de ta mère. Remarque, t'as raté gros. T'aurais rigolé avec nous. On a foutu une de ces raclées aux flics. La mère dit, ils ont oublié, c'est de me prendre ma montre. J'ai une belle montre à quartz, en plastique supérieur, Mickey, le grand du chic. Le père dit, une montre de capitaliste américaine de Disney. La mère dit, oui mais, ces enfoirés, elle a un problème, elle ne marche pas vraiment, c'est une montre de gosse. Son mari lui dit, moi, tu trouveras bien un plouc pour l'acheter. Le père dit, et toi ? François lui dit, moi, rien ? Tu n'as rien pour nous ? Non, rien. Le père lui dit, eh bien, va te coucher sans manger. François se dit qu'il s'en moque, qu'il a mangé des cacahuètes, une glace, et bu du jus de fruits. Alors, il va se coucher. Le lendemain après-midi, il retrouve Adrien. Retourne au parc de la Tête d'Or et sort boulevard des Belges et va pour aller au centre commercial de la Part-Dieu. Le centre est devenu le repère des voleurs, des drogués et toutes sortes de choses. C'est une cour des miracles.
Regarde.
La police n'ose plus y aller. Les magasins ferment les uns après les autres. Les deux garçons y vont, c'est pour être au chaud et se protéger du froid. Et puis, ils rencontrent d'autres jeunes qui font de la planche à roulettes dans le centre même. Comme ils sont jeunes, on leur propose souvent de la drogue. Cela ne les intéresse pas, et puis ils n'ont pas de quoi. François n'aime pas tellement le centre, aller au centre. Il trouve que c'est sale, même plus sale que les rues, parce que c'est fermé. Et quelque chose qui est fermé, la misère se voit plus. La saleté. La saleté est inconstante. Il y va, surtout pour faire plaisir à Adrien. François rêve toujours, c'est d'une autre vie. Il est prêt à tout pour y accéder. Et sait que malgré sa pauvreté, ses guenilles, il a du succès, même chez les gens bien. Lorsqu'il est dans les beaux quartiers, ou plutôt les rues, parce que beaux quartiers, il n'y en a presque pas. Il reste surtout ces débouts par-ci par-là, de coins qui ne sont pas dégradés. Et bien lorsqu'il est dans ces lieux, il voit que les gens le regardent gentiment et sont attirés par lui. Il aime qu'on le trouve beau et il aime séduire. Lorsqu'il est seul, il continue à lire. Il le fait de mieux en mieux. Mais il a encore des difficultés pour écrire, parce qu'il ne connaît pas la grammaire. Le lendemain, en se déshabillant pour aller se coucher, tombe de la poche de son pantalon la broche en forme de soleil. Il la ramasse. Il ne s'en souvenait plus. Il se demande ce qu'il va en faire. Il se dit qu'elle a peut-être de la valeur. Demain, il ira se renseigner chez le bijoutier qui est en bord de la rue Terme, pas bien loin de la place des Terreaux. Le lendemain matin, après avoir pris son petit déjeuner, un morceau de pain rassis, il laisse son père qui cube son vin, sa mère qui est allée au marché. Lui, une fois dehors, décide d'aller voir le bijoutier. Il y va. La bijouterie est toute petite. C'est une bijouterie de quartier. Ce qu'elle vend, ce n'est pas du luxe. Il est entré dans le magasin qui est tout petit. Il y a des réveils. Cela démontre que ce n'est pas un grand bijoutier. Un petit homme à cheveux gris, maigre, tête ridée. Il a sur ses cheveux un béret noir. « Vous désirez, jeune homme ? Monsieur, j'aimerais savoir si ça a de la valeur, cette broche. François lui tend la broche. Le bijoutier la regarde et lui dit « Tu l'as trouvée où ?» François gêné lui dit « Dehors, à terre. Mais où ?»« Dans une rue que je ne connais pas. » Le vieil homme regarde François et lui dit « Tu as de la chance d'être un joli garçon. Elle n'a pas de valeur, cette broche. C'est du métal doré. » François lui demande « Alors elle ne vaut rien ?» Le bijoutier lui dit « Ce n'est pas un vrai bijou, mais je crois dès que tu ferais mieux de ne pas la garder, parce qu'elle doit appartenir à des gens qui n'aimeraient pas que l'on sache qui sont parmi nous. » « Et qui sont ces gens ? Je ne sais pas, mais si c'est le sigle de ce que je crois, tu ferais mieux c'est de t'en défaire. » « Je peux vous la vendre, au prix que vous voulez ?»« Non, je n'en voudrais, même pas si c'est gratuit. C'est trop dangereux. Jette-la, et loin d'ici, que l'on ne te voie pas le faire. »« Tiens, reprends-la. » François la prend et quitte le magasin. Il se dit que le vieux n'a pas voulu sa broche parce qu'elle n'avait pas de valeur. Il la remet dans sa poche. Lorsque l'après-midi, il revoit Adrien, place Pradel, et lui dit « Tu sais la broche que l'on m'a jetée, c'est rien du tout, c'est de la pacotille. » Adrien lui demande « Alors pourquoi ils y tenaient tant ?» François lui demande « Pourquoi est-ce que tu dis qu'ils y tenaient ?» Parce que lorsque les autres l'ont attaqué, ils ne voulaient pas qu'ils la prennent, et c'est pour ça qu'il l'a jetée. François lui dit, peut-être que les autres croyaient qu'elle avait de la valeur. Adrien lui demande, et qu'est-ce que tu vas en faire? Rien, le bijoutier m'a dit de l'acheter. Si tu la jettes, tu me la donnes? François la lui donne, tiens. Puis François lui dit, et si elle te porte malheur? Si la ferraille? Et Adrien accroche la broche sur sa veste. Il se promène toute la journée. Puis, le soir, ils se séparent. Adrien va rejoindre sa mère au café où elle travaille et François entre chez ses parents. Les rues sont mal éclairées. Tout d'un coup, Adrien se sent pris en arrière, plaqué contre le mur, une grande ombre noire est entre lui et contre lui. L'ombre lui demande « Où as-tu cette broche ?» Adrien, apeuré, lui dit « Elle était à terre. Vous la voulez ?» Le lui dit « Tu sais qu'elle existe. On t'a vu avec, alors ?» Adrien demande, apeuré, « Vous la voulez, monsieur ?» L'homme lui dit, « Oui, je la veux. Et veut la faire disparaître. » L'enfant l'enlève de sa veste et la lui tend. « Tenez, monsieur. » L'homme la prend. « Merci. » Il maintient toujours l'enfant d'une main. L'enfant attend. L'homme lui dit, il faut que je la fasse disparaître de la mémoire. Viens avec moi. Où, monsieur? L'homme lui prend la main très fortement. Viens, et conduit l'enfant dans les rues. Adrien a peur, il aimerait crier, mais il ne le peut, l'homme lui tient bien la main. Il le mène dans une rue étroite et tortueuse, mal éclairée, la chaussée est pavée. On va où, monsieur ? L'homme ne répond pas. Adrien se dit qu'il aurait dû crier, se défendre. Maintenant, il est trop tard. Pauvre Adrien, perdu dans la nuit avec cet homme. L'homme a ouvert la porte d'un immeuble lépreux. Il pousse l'enfant dans l'allée. Elle n'est pas éclairée. L'homme mène le petit vers le fond de l'allée. Contre le mur, il retourne l'enfant face à lui. L'enfant voit que brille dans l'obscurité une lame de couteau. Demain après-midi, François ne trouve pas Adrien place Pradel. Le soir, le lendemain non plus. Il n'ose pas aller au café où travaille sa mère pour demander des nouvelles. Les jours passent. Les parents de François ne s'occupent pas de lui, ne lui parlent pas. François s'éloigne d'eux. Pour lui, ce sont des étrangers. Il perd à cause d'eux la notion de famille. Il lui vient de moins en moins à l'esprit de leur demander quelque chose. Lorsqu'il a faim, il se débrouille, demande aux passants. Il sait les séduire. Mais c'est d'instant qu'il ne faut pas aller trop loin. Des fois, on lui donne des petits travaux à faire. La fleuriste lui demande d'aller livrer des fleurs. Un jour, il a livré des fleurs chez une femme, une belle femme, habillée d'une robe blanche. Elle lui a dit qu'il était, lui, un bien joli bouquet, et elle l'a embrassé. On lui fait promener des chiens, arroser des fleurs. Pour le payer, il a comme salaire un repas. Plus ou moins copieux. Mais certains jours, François n'a pas envie de travailler. Alors, il va se promener. Il va des fois à la gare de Perrache voir les trains. Il adore les trains et aimerait partir. Il voit que beaucoup de trains de marchandises ont la marque Franblanc. Ce nom magique.
Départ de 34. Deuxième classe, c'est tourné et c'est première classe. Un train à destination de
Il va des fois à l'île Barbe. Pour lui, ce n'est pas vraiment une île. Il y a trop de maisons, de vieilles maisons. Et puis c'est tout petit. Et l'on voit la berge. Mais l'on voit l'eau et ça donne l'illusion d'être loin. Depuis qu'il a perdu Adrien, il n'a pas beaucoup d'amis. Dehors, il y a peu d'enfants. Et puis, cet enfant blond, qui malgré ses hardes ne semble pas être comme eux, les autres enfants ne le cherchent pas. Ne cherche pas à avoir des rapports avec lui, à lui parler. Lorsqu'il se passe dans sa rue, il croise souvent un jeune homme dans les 25 ans. Il est grand, mince, cheveux courts chacun, la tête sympathique, habillé en garde. C'est un garde de quartier qui surveille la rue. Il aide la police et quelquefois les hommes en noir. Ses habits ressemblent à ceux de l'armée, avec une casquette, veste, ceinturon de cuir. Ranger, il porte un revolver. Ses vêtements sont noirs. La veste est cintrée. Le jeune homme sourit à François. À chaque fois qu'il le voit, François n'ose pas lui rendre son sourire. Il est impressionné par l'uniforme. L'homme en passant ou le regardant lui sourit. Un jour, François, pour voir, s'est plaqué contre le mur d'un immeuble en face de lui et le regarde. Ils sont restés un long moment comme ça à se regarder. Puis, l'homme a baissé les yeux et s'est éloigné. François se demande ce qu'il lui veut. À force de le rencontrer, il n'a plus peur de lui, mais ne peut lui parler. François le trouve beau dans son costume. Un jour qu'il observe l'homme, une femme maigre, grande, cheveux blancs, habillée de hardes noires, lui demande « Tu regardes ?» François lui dit « Qui c'est ?» Elle lui dit « C'est le fils Courtal, son père est mort, il est entré dans la garde. Un brave garçon, et je me demande ce qu'il fait dans cet uniforme. » François lui dit, il lui va bien. Elle ose les épaules et lui dit, bien sûr, toi, comme tous les garçons, tu aimes les soldats. François lui dit, et lui n'en est pas un. Elle lui fait, c'est pire. Pourquoi pire? Parce qu'il
font des choses pas bien. Ils aident les gens pas bien. Et t'approche pas trop de lui.
Il lui dit, merci Madame Verrier. Et François s'éloigne. Il se dit qu'il doit se méfier de cet homme. Alors, il fait celui qui ne le voit pas. Mais il sent son regard. Et sait que l'homme est séduit par lui. Des fois, ça l'énerve. Il se dit qu'il est moins libre lorsque l'homme le regarde. La nuit, il lui arrive de rêver à l'homme. Il trouve son visage sympathique. Les jours passent. Malgré que de temps en temps, il rêve à l'homme, la journée ne pense plus à lui. À Lyon, il y a de plus en plus d'émeutes, de bagarres la nuit. Lyon supporte mal la réhabilitation de la ville. Centre international des anarchistes, beaucoup d'anarchistes venus d'Allemagne, d'Espagne et un peu d'Italie viennent dans cette ville, soi-disant pour étudier, et en réalité, c'est pour embrigader les jeunes. Ces anarchistes, de plus en plus nombreux, paralysent la ville, l'empêchent d'aller de l'avant. Ce qui crée des troubles, et en plus de la misère. Les jeunes font des manifs qui, en réalité, sont faites pour créer des émeutes. Ces émeutes sont créés pour faire peur et créer de l'insécurité en ville. La peur démontre que tout va mal. Et puis, les anarchistes de Lyon sont nihilistes, c'est-à-dire qu'ils doivent tout détruire. Leur seule politique, c'est la destruction et dire non à tout. Toutes les nuits, François entend des coups de feu et des cris dans son lit. Son père passe la nuit à la radio pour haranguer les émeutiers, annoncer la lutte et faire peur aux fascistes. Les chantiers Franc-Blanc sont souvent attaqués, incendiés, l'on vole, l'on démolit les immeubles en construction, on sabote les machines. Camions grues. Pourtant, les chantiers sont bien gardés avec des gardes, armées privées, chiens, robots. On empêche aussi les camions Franc-Blanc de circuler, les trains, faisant des barrages. Bien entendu, Franc-Blanc est plus fort qu'eux, mais il y a beaucoup de victimes parmi les émeutiers. Ils réussissent malgré tout à ralentir les travaux. En guise de punition, viennent la nuit des hommes en noir, en camion et bien armés. Ils encerclent les rues pour entrer dans les immeubles et appartements. Et là, ils cassent tout, mitraillent les habitants, puis mettent le feu. Tout ceci donne un climat de terreur. Les gens ne savent pas s'ils vont être tués la nuit. Ils se barricadent avant d'aller se coucher. Ça ne sert pas à grand chose parce que les autres sont bien équipés, point de vue armement. Il y a aussi, jour comme nuit, des enlèvements de personnes, de préférence jeunes, très jeunes. C'est pour leur prendre leurs organes. Ou si certains jeunes ont un coefficient d'intelligence importante, on les met dans des écoles spécialisées pour qu'ils deviennent les futurs cadres ou chercheurs du groupe Franc-Blanc. La journée, les gens sont obligés de sortir, bien entendu, on ne peut pas rester constamment chez soi. Ils sortent, mais en faisant attention, voilà tout. Robert, le père de François, n'est presque jamais chez lui. Il passe toutes ses nuits à la radio et l'après-midi au café. Lorsqu'il sort d'un café et qu'il passe devant un autre café, si une personne le voit, il invite à boire un coup. Même si c'est une personne qui vient de sortir de ce café, il y retourne avec Robert. Robert, c'est l'homme de la situation. C'est lui qui sait, qui explique et qui dit ce qu'il faut y aller. Il dit aux autres d'aller se battre, mais lui n'y va jamais. C'est normal. Lui sait diriger. C'est une tête. Une tête pleine d'alcool, mais une tête de militant. Et qui sait reconnaître l'ennemi fasciste. La mère de François, c'est la femme du héros. On la respecte, même si elle fait de la fauche. Les parents ont carrément oublié François. François passe ses journées seul, à marcher dans les rues, à essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à manger. Il regarde les poubelles, demande aux passants. Et des fois, il va même jusqu'au jardin du Rosaire à Fourvière, parce qu'il y a un figuier. Et que l'on peut commencer à les manger. Ça sent la fin septembre. Les figues sont bonnes, mais elles irritent la langue et leur liquide colle à la peau. La journée, il s'assoit sur un banc pour lire ce qu'il trouve. Il aime bien lire, dans les poubelles, il arrive de trouver des livres de poche. Les livres lui permettent de s'évader et d'apprendre des choses sur des gens qu'il voit autour de lui. Il a trouvé les églotères d'Henri Troya. Malgré que le livre date, les gens étaient plus heureux et insouciants. Ça lui a beaucoup plu. Il a aimé cette famille où il se passait des tas de choses. Il lit toujours les hebdomadaires que lui donne la voisine. Comme ça, il a des nouvelles des francs blancs. François vit seul. Et à part les passants qui lui disent bonjour, il ne parle à personne. À force de vivre seul, on a une vie intérieure plus grande. Et l'imagination prend une place de plus en plus importante. Il a l'impression que ses rêves deviennent réalité. Et comme les rêves n'ont pas de limite, l'on risque de se croire invincible et en dehors des lois. Qu'une seule chose compte, c'est soi. Les autres, on les voit comme dans un brouillard. Ils font partie des objets de décoration interchangeables et qui sont à notre disposition. Le décor aussi, on peut le voir suivant ce que l'on désire. Bien sûr, il y a des moments dans la journée où l'on revient à la réalité, où l'on a faim, froid, où le monde se plaque contre vous, où vous êtes obligé, c'est de voir la vie comme elle est. Mais les instants de rêverie pour François sont nombreux dans la journée. Alors il s'imagine qu'il est seul, qu'on l'aime, que les gens qu'il aime sont très riches. Il rêve que l'on s'occupe de lui, qu'il devient le centre du monde. En réalité, il est comme un enfant qui n'a pas été léché, c'est-à-dire pas eu de câlin, de baiser, d'amour. Et une personne qui n'a pas eu tout ça, ça lui manque toute sa vie. Un bébé a besoin de câlins. S'il ne les trouve pas, il en manque. Et ça le manque pour toute sa vie. Le besoin que l'on s'occupe de lui, l'affection, sera sa recherche constante. Et chercher à ce que l'on s'occupe de lui. Il ne pourra jamais devenir un homme, disons, un caractère masculin complet, car l'homme est celui qui protège, décide, dirige. Lui voudra qu'on le protège et que l'on dirige sa vie, c'est-à-dire toujours être un enfant, toujours être un enfant parce qu'il n'a pas eu l'amour que l'on donne à des enfants. Et comme son imagination est grande et comme il se rend compte que les gens aiment s'occuper de lui, jouer avec lui, il devient comme un enfant gâté. Il abuse de son pouvoir pour avoir ce qu'il souhaite et même en faisant des bêtises, de grosses bêtises, comme au détriment de la personne qu'il aimerait. Parce que pour lui, la personne aime n'est qu'un objet qui lui apporte du plaisir. Et même, il serait incapable de vraiment l'aimer parce qu'il ne peut ressentir vis-à-vis d'elle. Parce qu'il a manqué d'amour. Et puis, il comprend qu'elle ne peut se passer de lui, etc. Et puis lui, se sent fort vis-à-vis des personnes qu'il aime. Parce qu'il comprend qu'elles ne peuvent se passer de lui. Et tout ceci est assez confus dans son cerveau et inconscient. Et son caractère se forme dans cette direction par la faute de sa famille et de la solitude. François, comme il fait chaud, passe sa soirée dehors, dans son quartier. Il est dans sa rue et s'apprête à rentrer chez lui, ses parents. La rue est déserte, mais l'on entend le bruit des émeutes. Un homme, petit, maigre, à cheveux blonds, épais, habillé d'une vieille gabardine kaki, sale, un vieux pantalon gris et des bottes en caoutchouc, tient à la main un vieux sac sale et usé, flac. Lorsqu'il croise François, lui dit « Ça se rapproche de chez nous !» On se bat à place des terreaux. Ce sont ces sales gauchistes qui foutent la merde. Ton père n'a pas voulu que je parle à la radio. On m'empêche de parler, mais je parlerai. Cette radio est de gauche. Elle défend les gauchistes. Moi, non. Mais je parlerai. Tu ferais mieux si de rentrer chez toi, mon Mimi. François lui dit, est-ce que tu vas faire... Toi, Pierre-Max, moi, je vais essayer c'est d'enregistrer tout ça pour mon émission du vendredi. On m'empêche de parler. On me force à enregistrer mon émission. Mais je vais parler. J'aime bien les francs blancs, moi. François lui demande, tu les connais? Non. Mais ce sont des gens très bien. J'ai vu un reportage sur la G7 sur TF1 et dans Exclusif. Ils sont très bien. Ton père, c'est un gauchiste, mon Mimi. Et je t'aime bien, tout de même, mon Mimi. Se penche sur le pauvre François, le plaque contre lui et lui donne des gros baisers sur les joues. François est dégoûté. Pierre-Max sent mauvais et ses baisers sont mouillés. Et c'est un brave homme, un peu collant. Et Pierre-Max le quitte. Il descend vers la place des terreaux. Le bruit des émeutiers se rapproche de plus en plus. François se dit que ça doit se battre fort. La police a dû recevoir l'ordre de se défendre, de défendre l'hôtel de ville. Il est vrai qu'elle a depuis pris feu plus d'une fois et qu'une partie a été détruite par le feu. En bas de la rue, il voit une fumée épaisse, du feu, des cris. Vite, il se dirige vers son immeuble. Mais sort de la fumée les émeutiers, des gens en marde, des fusils, torches. Thank you. vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.